pour vous, avec vous, Radio Occitanie vous accompagne 24 heures sur 24.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons le jeudi de 10h à 10h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Philippe Vidal. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Avec qui je vais parler de son recueil de nouvelles intitulé « La 65e case » aux éditions La Clé d'Argent. On en parle avec lui dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Pour vous dire que ce soir, ce jeudi 5 avril à 17h30, au Théâtre Sorano, 35 allée Jules Guesde à Toulouse, une rencontre avec Daniel Pénac, suivie d'une lecture de Journal d'un corps, publiée aux éditions Gallimard, une lecture faite par Jean-Baptiste Malartre. Donc c'est ce soir. Ensuite, samedi 21 avril à 15h à la librairie Gibert, 3 rue du Thor à Toulouse, une rencontre avec Alain Julien rue de Foucault pour son roman Le Dernier Contingent aux éditions Tristram. Donc c'est un roman qui vient de recevoir d'ailleurs le prix France Culture Télérama de cette année, hein, 2012. Et puis je vous donne en avance pour le samedi 28 avril, et oui, comme les vacances débutent la semaine prochaine, les vacances de Pâques, il n'y aura donc pas d'émission Page à Page durant ces vacances. On se retrouvera le 26 avril prochain. Donc je vous donne en avance l'info suivante. Samedi 28 avril à 15h et à la librairie Gibert également, 3 rue du Thor, toujours à Toulouse, une rencontre avec le dessinateur Ralph Meyer et de son premier tome d'Asgard, Pied de fer, aux éditions d'Argo. Voilà, donc deux rencontres à la librairie Gibert.
Page à page, Claire Ambille.
Alors, je me tourne vers mon invité de ce jour, comme je vous le disais, Philippe Vidal et son recueil La 65e case aux éditions La Clé d'Argent. Alors, on va d'abord présenter un petit peu l'auteur. Hein. Philippe Vidal, vous êtes né dans le Loiret.
Oui, c'est exact, oui, à Gien.
Voilà. Et vous avez fait des études d'ingénieur. Hein,
à Toulouse, celle-là.
À l'INSA.
À l'INSA de Toulouse.
Oui. De Toulouse, donc vous êtes ingénieur en physique.
Voilà.
Et puis, vous êtes parti en coopération, travailler au Venezuela, de l'autre côté de l'Atlantique.
Voilà, exact. Ouais, en Amérique du Sud, il y a quelques années maintenant. C'était en 1980, enfin autour de 1995.
Et alors, vous avez été en contact là-bas, bien sûr, avec la littérature sud-américaine. Et c'est là que vous avez commencé d'ailleurs à écrire des textes, des nouvelles, hein, qu'on va retrouver d'ailleurs dans ce recueil.
Oui, voilà. Je me suis retrouvé avec pas mal de temps libre. Et puis, il faut se rappeler... Voilà,
on ne travaille pas trop au Venezuela.
Non, mais si. Enfin, bon. On travaille normalement, mais surtout que j'avais plus les loisirs que j'avais en France. Donc c'est ça qui m'a dégagé du temps.
Tout
et puis c'était
fait.
Quand même encore l'époque pré-internet et email, et où avec tous mes amis ici, on s'envoyait des lettres. Vous savez, les trucs là, on écrivait sur du papier, là, on le mettait dans une enveloppe avec des timbres. Et en fait, j'avais pris l'habitude
des choses qui paraissent à nos jeunes, voilà, mais c'était très obsolète.
C'était encore comme ça, le téléphone était cher à l'international.
Et oui, tout à fait.
Donc j'avais pris l'habitude d'écrire beaucoup de lettres comme ça et de fil en aiguille. Un jour d'ailleurs, en voyant un avis pour un concours de nouvelles à l'Alliance française locale, je me suis mis à écrire une nouvelle.
Et puis vous rappelez laquelle elle figure dans ce recueil?
Oui, c'est la première. Ouais. C'est la première du recueil. Quoi.
Ah ben on va en parler tout à l'heure, donc voilà, justement de celle-ci. Alors, en plus, vous êtes revenu en France et vous avez publié donc des textes que vous aviez donc écrits au Venezuela dans des revues, hein, en particulier, par exemple, si on en cite qu'un, l'encrier renversé, hein, à Castres.
Oui, voilà, bah, c'est eux qui ont publié ma première nouvelle, que d'ailleurs j'ai écrite en France, en fait. C'est,
ah, d'accord, celle-ci, vous l'aviez écrite en France. Vous
à mon retour, mais en tout cas, voilà. C'était...
Et vous avez écrit aussi dans l'anthologie annuelle de Fantastique, justement, des éditions de La Clé d'Argent.
Voilà, qui s'appelle, c'est une publication qui s'appelle le Codex Atlanticus, donc c'est une sorte de revue qui paraît une fois l'an de cet éditeur qui est spécialisé en littérature fantastique.
Et alors justement, cet éditeur, La Clé d'Argent, a lancé, vous a sollicité avec d'autres auteurs, hein, pour la création donc d'une nouvelle collection, hein, une collection de nouvelles fantastiques. Mmh. Et donc, vous avez, et c'est de là qu'est née la 65e case.
Exactement, qui est parue donc l'an dernier, au mois de juillet, en juillet 2011.
D'accord, donc c'est votre premier recueil et j'espère, mais pas le dernier, non, on en parlera
aussi,
à la
oui.
fin de l'émission, ça vous a donné envie de continuer à écrire. Et puis, pour la petite parenthèse, vous participez, vous êtes, nous sommes collègues entre guillemets, vous participez à une émission de musique indépendante qui s'appelle La Centrifugeuse sur Canal Sud.
Voilà, enfin, alors j'y participe hein, très, très occasionnellement, disons c'est un ami à moi qui anime l'émission et puis on est un petit groupe de collaborateurs qui y allons de temps en temps présenter
des disques.
De temps en
temps, vous y allez,
parler,
voilà. Et puis,
voilà, selon les dispos.
C'est tous des passionnés.
Un mardi sur deux.
Un mardi sur deux.
À 20h sur Canal Sud.
Sur Canal Sud. Donc voilà, des passionnés donc, de musique indépendante.
Oui, voilà, toutes sortes de musique. On parle de beaucoup de rock indépendant, mais aussi de jazz, de chansons.
Et vous êtes aussi actif au sein d'une troupe de théâtre amateur hein, de
oui,
Toulouse.
Décidément,
hein.
Ça fait...
Ah ben bah oui, vous m'avez tout
vous
dit.
Bien.
Alors moi,
d'accord.
Je dis aussi, hein, forcément.
Ah, vous répétez tout, bon, okay.
Je suis le perroquet. Je fais le perroquet au théâtre. Ça s'appelle théâtre de soupe, tard. En deux mots, hein, soupe et tard.
Oui, voilà. Oui. Oui, c'est une petite troupe de théâtre
donc,
amateur.
Comédien aussi,
à
hein,
Toulouse,
du coup,
comédien,
et metteur en scène, enfin organisateur de pièces
comme...
de théâtre.
Voilà.
Et vous produisez aussi, donc j'imagine.
Ben, fin mai. Alors si jamais les auditeurs ont bonne mémoire, je peux leur donner rendez-vous.
Ah ben vous
déjà,
me le redonnerez. Vous me redonnerez, je l'annoncerai
oui,
en temps
sûr,
et en heure.
Fin mai au Grenier Théâtre dans le quartier Croix-Dorade, le Grenier Théâtre qui organise d'ailleurs une série de représentations pour des troupes amateurs de la région. Là. C'est un petit programme qu'ils ont créé cette année. Donc, voilà,
ça sera quoi comme pièce?
Nous, on va faire des pièces courtes de Tennessee Williams.
Ah, très bien. Ben, vous me direz, rappellerez la date et puis je l'annoncerai dans ma page info au moment précis.
Merci bien.
Alors, ce recueil, donc, comme on le disait, la 65e case, donc, aux éditions La Clé d'Argent. Alors, c'est un recueil de nouvelles, de 17 nouvelles, hein, si on a bien compté. Hein, donc, voilà.
Ça dépend comment on compte. Mais,
oui, voilà, parce qu'il y en a une qui compte,
mais...
où il y a trois, c'est un triptyque. Alors,
voilà,
comme son nom l'indique, il y en a trois dans une. Alors, moi, je dirais que c'est un recueil, ça m'a beaucoup surprise, c'est que c'est un recueil qui est inclassable. Moi, j'ai pas su le classer. C'est la première fois que je lis un recueil de cette teneur.
Le compliment me va droit au cœur.
Il est inclassable, ce recueil. C'est déjà, bon, toutes les nouvelles ont des titres insolites, hein, on peut le dire. Hein, on va en voir quelques-unes avec des longueurs différentes. Hein, il y en a des très courtes, il y en a des plus longues. Et puis, le titre, forcément, la 65e case, c'est une case qui n'existe pas sur un jeu d'échecs qui n'en a que 64.
Voilà.
Donc
voilà,
c'est un peu le recueil qui vient d'un autre monde, on va dire.
Ouais, c'est un peu l'image. Alors c'est une référence en fait à la 65e case, c'est dans la dernière nouvelle du recueil, donc
oui,
après au jeu
d'échecs. Oui, c'était Werner Mosmer. Hein.
Voilà, il y a un personnage de journaliste qui écrit un article dans lequel il mentionne cette notion de 65e case à propos d'un joueur, etc. Et moi j'aimais bien l'idée en fait que le recueil, il est pas le titre du recueil, ce soit pas le titre d'une nouvelle, mais un élément là qui soit caché quelque part dans une nouvelle. Voilà. C'est pour ça que je l'ai baptisé comme ça. Puis ça va bien un peu avec l'ensemble du recueil, vu que c'est quand même des histoires fantastiques. c'est un peu des histoires oniriques là, entre rêve et réalité.
Voilà, entre imaginaire et...
Qui sortent d'une zone comme ça.
La quatrième dimension.
Voilà, ou la zone qu'on traverse au réveil, des fois, quand on ne sait pas trop bien où on est. Là, qu'on,
d'où on vient, ouais, d'où, on, se réveille d'où on revient et
voilà,
où on est.
Dans une chambre qu'on ne connaît pas, enfin, par rapport à ce qu'on n'est pas dans notre chambre habituelle et que, voilà, on se demande un peu.
Et puis, bon, il y a un rapport quand même avec les échecs, hein, parce qu'il y a plusieurs nouvelles où il est question d'échecs, notamment la dernière, comme vous le disiez. Et puis une autre aussi dont on va parler. Donc vous êtes joueur d'échecs aussi, Philippe. Enfin, vous avez joué tout du moins aux échecs.
Oui, voilà. J'aime bien y jouer. J'ai eu l'occasion d'en faire aussi un peu en compétition. Donc où ça prend un sel différent. Et voilà, c'était un peu aussi en souvenir de ça, de ces années-là que j'avais écrit les nouvelles autour des échecs.
Des échecs. Alors donc, comme je disais, des textes qui sont à la fois insolites, étranges, fantastiques, hein, sont des synonymes pour dire que voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on lit habituellement. Donc comme vous le disiez, entre rêve et réalité. Et puis donc, je dirais des histoires, enfin un univers particulier. Hein, c'est vraiment tout à fait... particulier comme univers, toutes ces nouvelles, entre ce mélange de rêve et de réalité.
Oui, toujours, sûrement. Peut-être que ça paraît plus particulier en Europe, finalement, qu'en Amérique, parce que c'est vrai, comme on le disait avant l'émission, moi, c'est des nouvelles que je me suis mise à écrire quand j'étais donc au Venezuela. Et que je lisais pas mal de littérature, de nouvellistes comme ça,
sud-américains,
et en particulier argentins. Et je suis peut-être qu'en Amérique du Sud, un recueil comme ça paraîtrait moins insolite, peut-être, parce que franchement, il y a des choses à moi qui me paraissent complètement dans la ligne, donc d'auteurs en particulier comme Borges ou Julio Cortázar, qui sont cités un peu dans la préface. Et il y a vraiment des choses qui ont été faites sous leur inspiration directe. Il y a en particulier deux nouvelles, et la première qui s'ouvre sur des citations de Jorge Luis Borges, et c'est pas un hasard.
C'est pas un hasard.
Voilà, donc c'est peut-être en fait ce qu'il y a d'hybride dans le livre, et puis j'aime bien l'idée qu'il soit hybride, c'est un Français qui s'est mis à écrire des nouvelles en Amérique du Sud au moment où il lisait des auteurs sud-américains, et ça donne un peu...
D'ailleurs, il y en a trois dans de nouvelles qui sont inspirées d'actualité. Hein,
Oui, alors ça, c'est ce que je dis un peu dans la préface. Ouais, je dis qu'il y a trois nouvelles qui sont inspirées de l'actualité.
On n'en parlera pas forcément donc de ces nouvelles-là, c'est pour ça que j'en parle maintenant.
Sans préciser de quelle actualité elles sont inspirées, à quel moment, ou... tout ça parce qu'en fait la préface que je me suis amusé à écrire pour le livre après coup, hein, c'était pour vraiment au moment de la publication, c'était un espèce de truc elliptique qui s'inspire pas mal de préfaces que j'avais pu lire de Borges justement, quoi. J'ai un gros recueil chez moi d'intégrales de Borges où il fait des préfaces à ses recueils où il mentionne comme ça chaque nouvelle en passant et en disant parfois une phrase un peu énigmatique genre, oui, voilà, alors dans tel texte, j'ai essayé de parler de ceci, cela, bon, voilà, et puis il passe comme ça, alors on ne sait pas trop ce qu'il a voulu dire des fois, donc je me suis...
inspiré. Voilà.
Dans un préface, je me suis amusé, je me suis mis la contrainte de citer chaque texte une fois et une seule, et des fois avec des formules comme ça, ou qui déconcerteront peut-être le lecteur, mais bon, c'est...
Ah ben c'est sûr que c'était un recueil déconcertant, ça je vous le confirme.
Dès la préface.
Moi personnellement j'ai apprécié. C'est toujours appréciable d'être déconcerté par une lecture. C'est un peu le but aussi d'une lecture. Hein. C'est rencontrer un univers différent, c'est rencontrer Donc c'est effectivement déconcertant, mais dans le bon sens du terme, on va dire. Alors dans le style, moi je voulais appuyer un peu sur le style. C'est très très bien écrit. J'ai beaucoup apprécié votre style, Philippe, à la fois riche, mais qui coule bien. Hein. Ce n'est pas ampoulé et c'est simple, mais c'est beau à la fois. Enfin, c'est à la fois simple et beau.
Voilà, merci, donc, c'est un peu...
Les phrases, des fois, sont longues. On se dit, oulala, où est-ce qu'on va? Et en fait, non, c'est très agréable à lire.
Oui, en effet, c'est un peu ce qui est recherché aussi, dans la mesure où, dans les nouvelles, des fois, il n'y a pas vraiment de narration, des fois, ou de suspense, d'angoisse, de choses comme ça, qu'on n'est pas forcément tenu en haleine par un déroulement d'histoire. Il y en a beaucoup qui s'appuient plus sur, voilà, sur l'esthétique, voilà, que les phrases coulent un peu, et effectivement, ouais, que ça soit agréable, qu'on soit un peu entraîné dans cette lecture et
dans
une certaine esthétique. Voilà. Enfin bon, voilà, c'est ce qui est
oui,
tenté
en tout
cas.
Oui, mais c'est tout à fait
ça qui en ressort
à la lecture.
Parfois.
Alors, on va parler, donc la première nouvelle, c'est « Rêver le monde ». Le titre, et donc qui est introduite par une phrase donc de Borges, hein, on va pas la lire, hein, que vous avez traduite, hein, d'ailleurs, en dessous, parce qu'elle est en espagnol,
oui.
Voilà. Alors, on pourrait dire, voilà, c'est un train qui roule, hein, de Paris à Berlin, avec un homme qui lit et qui regarde son reflet dans la vitre, et puis il y a une petite fille et sa grand-mère qui parlent en allemand, là, qui sont dans le même wagon. Et puis, il y a le temps, le facteur temps est important dans cette nouvelle. Enfin, un peu dans tout, hein,
oui,
d'ailleurs.
Oui, le temps, l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est un peu tout ça? Enfin, bon, c'est simplement, moi, c'est quelque chose qui m'était arrivé à moi. Enfin, j'ai bien des années avant, mais j'ai repensé au moins d'écrire la nouvelle. C'est la fameuse nouvelle donc, que j'ai écrite en voyant cette annonce de concours de nouvelles à l'Alliance française.
Quand vous étiez au Venezuela.
Et voilà, c'est cet homme-là qui passe un laps de temps, disons, pour essayer de résumer, hein, dans un train pour aller à Berlin. Il a quitté une amie, il va voir un ami. Et puis,
oui.
Donc, il a ce laps de temps pendant lequel il voit dans la vitre des arbres et du paysage passer sur son visage. Et du coup, ben, il s'amorce une espèce de réflexion.
De rêverie,
voilà,
onirique,
plus que de réflexion, une rêverie sur qu'est-ce que c'est que cet espace qui est en train de défiler pendant ce temps qui défile aussi. Qu'est-ce qui défile? Est-ce que c'est les arbres du paysage, ou est-ce que c'est le temps, ou est-ce que c'est moi-même sur la vitre? Enfin,
voilà. Ouais,
c'était un peu des notions que j'ai présentées peut-être de manière pas très rigoureuse, mais voilà, un peu comme ça, sur le ton de la rêverie. Et une fois, inspiré d'une phrase de Borges, exactement, où il y a cette formule « Rêver le monde ».
Oui, mais c'est un joli, très joli titre.
C'est lui qui parle de
« Rêver
le monde ».
Très joli titre. Donc, la superposition, voilà, de la réalité et du rêve. Et puis, avec une phrase, moi, qui m'a bien plu dans cette nouvelle, quand il regarde la petite fille qui parle à sa grand-mère, j'ai beaucoup aimé ce qu'il pensait en les regardant parler. En parler la petite fille à sa grand-mère. Et il y a une phrase, donc cette phrase m'a beaucoup plu. « Les enfants n'ont qu'un présent que nul passé ne presse à fuir. » Moi, je trouve que c'est une très belle, très belle phrase.
Ouais, ben voilà. Enfin, après, c'est quelque chose qui a été trouvé en cours d'écriture, là, cette image de, voilà, une petite fille et une grand-mère, un peu les deux extrémités de la vie qui figuraient aussi un peu les... Il y a les deux extrémités
le temps
du voyage.
Le temps se retrouve aussi là-dedans.
Bon, voilà, c'est des choses qui ont été mises comme ça. Après, on les met sans trop y penser. Et puis, a posteriori, quand on en parle,
c'est là qu'on
rebâtit le truc. Quoi.
Alors, la seconde, « Infiniment pleurer ». Un très joli titre aussi, avec l'influence, donc là aussi, vous le disiez dans votre préface, hein, influence des auteurs vénézuéliens, là, hein, pour la poésie du style, hein,
cette
nouvelle.
Oui, voilà, en particulier dans celle-là, en effet. C'est là que j'avais essayé, je suis parti sur des phrases que je qualifie dans la préface de solennelle ou de volumineuse. Voilà, j'ai essayé vraiment de donner à cette nouvelle une espèce de solennité comme ça à travers des phrases et à travers l'histoire un peu grave finalement qui s'y...
Alors dans cette nouvelle, on parle d'échec, hein, puisque on parle de O, alors on ne sait pas qui c'est, mais voilà, quelqu'un qui s'appelle, un prénom qui commence par O, et un adolescent qui se livre à des parties d'échec, hein, mais aux allures vraiment de combat de boxe, hein, aux allures de lutte, hein, c'est vraiment...
De combat même plus que
des vrais
combats,
hein.
À la mort. Quoi.
Ah enfin, oui, vraiment, hein, c'est plus que des parties d'échec simples. Hein. Et il y a une allusion à Amsterdam, hein, j'imagine que vous connaissez, vous avez déjà été à Amsterdam.
Oui, voilà, alors je ne sais plus pourquoi. Oui, voilà, en l'écrivant, j'ai pensé, je faisais errer ces personnages un peu dans des villes. Et puis Amsterdam, c'est une ville que j'aime bien.
Donc,
qui a quand même des attraits, des côtés assez romanesques. Quoi.
Oui, voilà, oui.
Donc que j'ai voulu exploiter. Là.
Et qui allait bien, voilà, dans l'histoire, enfin, dans ce texte. Alors la chute, bon, on ne va pas la dire, bien sûr, hein, mais elle est... C'est une chute assez noire, hein. Cette nouvelle est assez...
Elle
est surprenante.
Oui, sûrement. Ouais.
Oui, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, voilà, j'ai infiniment pleuré, un joli titre. Alors la troisième que j'ai choisie, hein, dans ce recueil, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les détailler, c'est « Critique du sixième sens ». Alors là, c'est une bien étrange histoire. Hein,
c'est une bien étrange histoire dont on ne sait rien, en fait. Quoi.
Ça parle de Polaroid, de salle vide de cinéma, enfin de salle de cinéma vide, plus exactement, d'une lettre qu'il ne faut pas lire.
Et que d'ailleurs, le narrateur lui-même, le lecteur, on n'en parle même pas, mais le narrateur lui-même ne lit pas cette lettre.
Ne lit pas non plus.
Qui aurait pu lui dévoiler tout le mystère.
Tout à fait, le mystère. Voilà, donc... C'est un peu on se demande, voilà, un rêve réel ou une, enfin c'est.
Voilà, et l'idée c'est que ça laisse peut-être un peu au lecteur la place de s'imaginer, de se faire sa construction.
Ah ben oui, tout à fait,
sa construction à lui.
Ah oui, totalement, totalement. Et puis donc il y a aussi les livres invisibles. Ah, celle-là, elle est bien aussi déjà le titre. Alors les livres invisibles. C'est là aussi cette nouvelle est introduite par une phrase de Borges. Hein.
Oui.
Alors c'est une nouvelle très, très originale, hein, avec là aussi des ellipses et des manques que le lecteur peut combler à sa guise, hein, parce que forcément, on va le voir, les mots qui disparaissent, forcément, il faut combler. Hein. Alors c'est l'histoire de l'ouvreur, hein, du diseur, qui lui enferme qui remplit des cages à mots, c'est-à-dire des grilles de mots croisés. J'ai trouvé que c'était joliment dit, cage à mots pour les mots croisés.
Oui, voilà, c'est un des personnages qui dit ça, en fait.
Oui, 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 tout à fait. C'est l'ouvreur, d'ailleurs, qui dit ça en parlant, je crois, du diseur. Et puis, il y a le faiseur, qui, lui, écrit des livres invisibles. Alors, c'est assez original. Hein. C'est-à-dire que les mots qu'il écrit disparaissent presque tous au fur et à mesure de son écriture.
Voilà, ouais, c'est un peu... Et même au cours de la nouvelle, c'est une nouvelle un peu qui est en trois temps, donc,
oui.
Où notamment le travail du faiseur se radicalise, si bien qu'au début, il écrit des phrases avec des trous, donc où les mots disparaissent, et puis de plus en plus, à la fin, finalement, il promène un crayon sur une feuille qui reste blanche. Quoi.
Qui reste blanche.
Et les lecteurs qui ont pris l'habitude de lire par-dessus son épaule, même dans ce blanc, dans ce rien, ils arrivent à se créer leur histoire. Quoi. En fait, c'est une nouvelle. Il y a toute une partie centrale du recueil où il y a une série de nouvelles qui explorent comme ça le thème de l'ellipse, du non-dit, c'est-à-dire qui ne parle pas de l'histoire à proprement parler, mais qui parle des à côté. Et les livres invisibles, donc comme critique du sixième sens, les livres invisibles, ouais, elle est même carrément centrale. C'est celle qui présente le thème de la manière la plus claire et la plus frontale, on va dire.
Tout à fait. Et il y a une phrase qui m'a bien plu dedans aussi, c'est le diseur, je crois, qui dit du faiseur. Il y avait aussi ce mot que le faiseur n'avait nul besoin d'écrire, celui que je voyais partout, liberté. Ça, c'est...
Ouais, voilà, moi, c'est une...
Ben oui, mais si, c'est...
C'est l'anti-Paul-Édouard, en fait, partout où j'écris ton nom, alors que lui...
Et oui, tout à fait, oui, ça m'a fait tout à fait penser à ça. Et puis donc, les mots qui disparaissent au fur et à mesure, et puis donc le diseur qui comprend l'invisible, donc sillage de la phrase hein, du faiseur. Et c'est... voilà, donc, il dit aussi, donc, en parlant de cette... de ces mots qui disparaissent, dans l'invisible sillage de la phrase du faiseur, un monde en effet s'ébrouait, vibrait, s'agitait, évoluait par les volontés conjuguées de l'écrivain et du lecteur.
Ah ouais, tiens, je ne m'en souvenais pas, celle de l'invisible sillage. Non, la formule, l'invisible sillage.
Ah oui, oui, dans l'invisible sillage,
vous voyez. Oui, c'est bien, ouais, c'est bien.
Donc voilà, donc ça c'est une nouvelle, voilà, le livre invisible. Alors je ne sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps avant de se quitter sur une chanson en espagnol. Donc peut-être on a encore le temps de parler d'une avant que je vous dise qui sera l'invité le 26 avril et puis se quitter avec Philippe. Donc quelques muscles du visage peut-être. Alors c'est une femme qui écrit, hein, enfin qui raconte. Là vous êtes mis un peu dans la peau d'une femme, je dirais.
Ouais, ouais.
Un village quasi désert, un matin très tôt, un endroit où il fait une température idéale pour être dehors ce matin-là. C'est un peu le... Elle est très curieuse aussi, cette histoire.
C'était un rêve,
c'est
je crois.
Un rêve ou un... Oui,
non, c'est un rêve que j'ai fait.
Ah
enfin,
oui,
voilà,
un rêve.
Et puis bon, ben, mis en musique, enfin en mots, en l'occurrence.
En mots, oui.
Voilà, ouais, je trouve que c'est... J'aime bien, c'est une nouvelle qui a été agréable à écrire et peut-être agréable à lire aussi.
Ah oui, 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 oui.
Voilà, ça coule comme ça, on se pose pas.
Il n'y a que des femmes d'ailleurs hein, dans ce recueil. Enfin,
Il n'y a que des femmes, c'est bien de l'avoir détecté parce que c'est peut-être ça la question qu'on peut.
À l'arrêt de bus, il y a une femme, les deux femmes qui réparent une voiture.
La remarque qu'on peut se faire, ouais. Voilà, même elles réparent elles-mêmes leur voiture, c'est dire s'il n'y a que des femmes. Quoi.
Enfin, ah, voilà.
C'est un peu cliché, mais c'est pour vraiment.
Oui, mais bon, voilà, c'est une nouvelle, il n'y a que des femmes. Et donc, la première, c'est écrit à la première personne du singulier et c'est une femme.
Voilà, ouais. Donc après, libre au lecteur et peut-être surtout à la lectrice, je sais pas. D'y penser à ça, de se dire tiens, il n'y a que des femmes.
Et voilà. Donc Philippe Vidal, ce premier recueil de nouvelles, la 65e case, édité à la clé d'argent, ça vous a donné envie de continuer d'écrire?
Oui, enfin bon, j'avais envie sans ça de toute façon, mais c'est toujours une motivation supplémentaire.
Oui, d'être publié, c'est quand même on peut faire partager aux autres.
Oui, voilà, et puis bon, on a des retours, enfin voilà, ça permet de se situer, donc on continue.
Donc il y a quelque chose en cours.
Oui, je suis en train de mettre la dernière main à un nouveau recueil.
Donc recueil pareil
toujours
de texte aussi.
Toujours des nouvelles, oui, bon après j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses sur le feu, y compris éventuellement un roman dont j'ai peut-être un tiers ou une moitié d'écrites. Mais pour l'instant, voilà, au moins, il y a un recueil, qui s'est cristallisé autour de quelques textes que j'avais déjà. J'en ai rajouté d'autres. Il y a quelque chose d'un peu organisé. Donc, j'y mets la dernière main. Là, on est en phase de relecture, fignolage.
Ça sera la clé d'argent également?
Je sais pas, je suis pas sûr parce que c'est pas tout à fait le même ton, c'est pas vraiment des nouvelles fantastiques, c'est plus des choses un peu plus dans l'humour ou caustique, dans le ton peut-être de l'abolition des problèmes, enfin, si vous vous souvenez là-dedans
rapport avec l'actualité un peu.
Oui,
parce
non,
que l'abolition des problèmes, c'était
oui
un
non,
peu voilà,
peut-être
une politique
plus...
complètement loufoque.
Voilà, ouais, peut-être plus en rapport avec la vie actuelle, quoi. Même si ça restera quand même largement dans le domaine de l'imaginaire.
De l'imaginaire,
c'est
toujours.
Pas encore du réalisme forcené, quoi.
Bon, en tout cas, voilà, donc la 65e case aux éditions de la Clé d'Argent par Philippe Vidal, c'est vraiment un recueil que je conseille à nos lecteurs de découvrir vite. En plus, là, les vacances arrivent, donc pour ceux qui prennent des vacances, le livre est en plus un format petit qui se glisse partout.
Ouais, voilà,
quand même dire que
poche,
ce recueil-là, précisément, que j'ai en main, a été très loin.
Ah oui, donc c'est vrai.
Et oui, ouais.
De le voir comme ça, là, c'est quand on
pense, oui,
c'est
oui,
fou.
Il a pris l'air d'un endroit lointain du monde. Alors, merci beaucoup, Philippe. Et donc, on va se quitter avec une chanson en espagnol. Et on se revoit on se réécoute le 26 avril. On se retrouve sur Radio Occitanie le 26 avril avec Alain Légoni pour La Maison, son roman qui est publié aux éditions Priva. Et puis, merci encore à vous, Philippe. Et puis, j'espère que vous reviendrez quand le prochain recueil sera paru.
Vous
reviendrez nous en
courant,
parler.
Ouais, ça risque de prendre encore un peu de temps.
Mais ça ne fait rien.
Le temps de trouver l'éditeur.
On a le temps, justement. Le temps, là-dedans.
Le temps,
là,
voilà. Pas de problème.
Il est bien évoqué dans ce recueil. Merci encore pour ce recueil insolite.
Merci pour votre lecture et pour l'invitation.
Et on se quitte donc avec la chanson en espagnol. Et au 26 avril, bonnes vacances à tous et à rester fidèles au programme de Radio Occitanie. Adiciats.
Volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tuya.